Michel Potet est le témoin de la révélation d'Arès, un message du Créateur, de Dieu, reçu en 1974 et 1977. Il s'exprime régulièrement sur son blog à l'intention de tous, croyants ou incroyants.
Entrée 227 du blog de Michel Potet, paru le 26 février 2021. Paroles et poésie. Bonne écoute. Je m'enhardis une dernière fois à caresser en esprit ton image. J'use toute ma force à raviver un songe. Je me complais, non sans chagrin ni crainte, à évoquer ce qui fut notre amour. Nos années fuient, nos années vont changeant et changent tout et nous changent nous-mêmes. Pour moi, qui te chantais hier encore, tu es voilé d'une ombre sépulcrale. Pour toi, l'ami d'hier n'est plus qu'un feu éteint. Accueille, ô ma compagne pour toujours distante, ces adieux que t'adresse mon cœur, comme ferait une épouse endeuillée ou un ami qui étreint son ami sans dire un mot au seuil d'une prison. Ce poème est de Pouchkine. Il pourrait être une parole du père rappelant à l'humanité l'enfant qu'il a abandonné, qu'ils se sont aimés autrefois. Lequel, du père ou de Pouchkine, s'inspire de la poétique de l'autre? Rien ne le dit nulle part, mais je pense que c'est le poète homme qui reproduit le poète Dieu parce qu'il en est l'image et ressemblance. La poésie donne une preuve de plus de la parenté entre vie et vie. Au reste, la parole est nécessairement poésie, parce que la poésie ajoute aux mots qui s'arrêtent au cerveau un chant qui descend jusqu'au cœur. Or, le cœur est siège de la vie, miroir de la vie. Pablo Neruda, poète chilien marxiste, dans son discours à l'Académie Nobel, dit « Le poète n'est pas un petit dieu. Son destin n'est pas supérieur à celui de gens d'autres métiers. Le meilleur poète est l'humain qui nous fournit notre pain quotidien, le boulanger. Propos de rationaliste, mais que tourmente le dépassement, qui sent le vent de l'amour dans le souffle chaud et parfumé du four à pain qu'on ouvre. Ses poèmes, Cien sonetos de amor, à la femme qu'il aima, Matilde Urrutia, sont d'une beauté qui dépasse le métier. Par là, Neruda réveille le père qu'il a assommé au fond de lui. Sa poésie le purifie, l'étale comme l'étaler au-delà de la matière, le propulse entre l'ici et l'infini. La poésie étant le seul moyen qu'a l'homme, croyant ou incroyant, de dépasser son parler insuffisant pour manifester son espoir d'un monde de bien, le père, le premier, ne peut qu'en employer le langage. Assez longtemps, le message lapidaire des Théophanies, 1977, m'avait dérouté, jusqu'à ce que je compris sa nature formelle. C'est un poème. Ceux qui, aujourd'hui, le trouvent incompréhensible, cacophonique, doivent aussi comprendre sa nature poétique. Quel autre moyen a la parole d'émouvoir la créature humaine dans un cadre hautement dramatique? La vie doit ramener l'être rebelle à l'être fidèle par excellence. La vie y met du dépassement, donc, et la poésie est dépassement. Je ne suis pas poète pour un sou. Pourtant, le triste béotien que je suis aime aujourd'hui la poésie que m'a fait découvrir la vraie parole. Avant 1974, cette poésie ne me manquait pas, je n'en rêvais pas. Je n'étais pas sensible à la poésie biblique. La poésie de la parole d'Arès m'est tombée dessus, comme l'éclatant reflet de la lumière de la vie, qui, en des temps immémoriaux, maintint probablement Éden sans jour ni nuit, comme redeviendra la terre des hommes, le jour où le règne du matérialisme borgne, du rationalisme et de l'humanisme truqué aura disparu. Le bien règnera de nouveau. La science reine n'est que faible lueur changée en impérieuse folie. Qui ne le voit en autant de Covid? Elle n'est qu'une ridicule bougie face au soleil. La quête active de la vérité sur la vie humaine, d'où vient-elle, où va-t-elle, mourut avec Socrate. Platon en fit tinter les cloches une dernière fois, et, même s'il y en a eu quelques échos par la suite, Bouddha, Adi Shankara, Spinoza, etc., elles ne sonneront à nouveau à la volée comme un sublime poème que lorsque nous aurons dissipé les ténèbres où nous rampons. La poésie de la parole est plus que tournure d'écriture ou de récitation comme porteuse de sens. Elle apporte la vie, rend vivant le langage en lui donnant ce que Platon appelait « forme » ou « idée » quand il écrivit dans Timée que « d'abord existe ce qui reste identique à soi-même en tant qu'idée, qui ne naît ni ne meurt, ni ne reçoit rien venu d'ailleurs, ni non plus ne va nulle part, qui n'est accessible ni à la vue, ni à un autre sens, et que seule l'intelligence perçoit. Ensuite, ce qui, tout en ayant même nom et en étant semblable, reste sensible, naît, se meut sans cesse, surgit et disparaît, est accessible à l'esprit et s'accompagne de sensations. Autrement dit, la poésie n'a ni jeunesse, ni vieillesse. Indéfiniment péchue, elle vit au-delà du temps. C'est tellement évident chez Homère, chez David, psaume, tous deux poètes à la même époque, ou chez Muhammad, mais encore poètes aujourd'hui, inusables à aide. L'antique amour de la sagesse, philosophia, philosophie, qui était toujours poétique, a été remplacé par l'autorité des raisonnements plats et sans lumière et des bavardages codés entre lettrés, politiques, administrateurs, scientifiques, juges, religieux, etc. Ce qu'on appelle les gens sérieux, parlant un langage sérieux. Je sais que, comme la révélation d'Arès, je tourne à vide dans ce monde qui ne sait pas quoi faire de ce livre et de moi, témoin de son messager, le vivant Jésus, et de la vie. L'intelligence n'est pas hors-jeu dans notre activité de pénitence et de moisson de pénitents, bien au contraire. Mais dans le béton du monde, où la parole d'Arès perce, lentement, la poésie, pas forcément en mots, mais au moins en vie, lui permet de faire son chemin. Dans cette obscurité, nous sommes encore presque invisibles et insonores. Même chose pour le Père, Créateur, vie, Dieu, tout autre, Logos, éternel, je suis qui est, qui sait que s'il ne met pas dans sa parole de la poésie, il ne sera pas entendu du tout.